Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Yvan Rioufol, merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte Dutreuil.
Alors, comment avez-vous jugé la marche pour Quentin de votre côté? On en discutait il y a quelques secondes avec le sénateur Étienne Blanc.
Oui, écoutez, d'abord, convenons qu'elle a été caricaturée par les médias, par la majorité des médias qui s'en sont alignés sur le récit imposé par la France insoumise, qui a voulu y voir une parade fasciste. C'est en effet désolant, on y reviendra. Et donc, j'ai regretté effectivement que les Lyonnais n'aient pas rejoint en masse cette marche en hommage à un jeune patriote catholique qui a été massacré par une milice au service de l'islamo-gauchisme défendu par LFI. Il faut tout de même rappeler ces préalables. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, en effet, l'explication du sénateur Étienne Blanc, sénateur républicain qui n'a rien d'un extrémiste, qui avait justifié sa présence en expliquant qu'il ne se voyait pas assez croire, je crois, pour rester tranquillement chez lui au coin du feu, avait-il dit. J'aurais effectivement dit exactement la même chose si j'avais été à Lyon. J'aurais participé moi aussi à cette marche si j'avais été sur place, en refusant ces intimidations, ces caricatures sur un fascisme d'opérette et sur la menace d'une extrême droite qui, si j'ai bien compris, écoutez, les spécialistes de ces mouvements-là ne représenteraient les bonnes années que 3000 personnes en France. 3000 personnes en France quand on parle de l'extrême droite. Donc c'est absolument n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai surtout été très impressionné par le courage et par l'intelligence de toute une jeunesse française qui a pris la parole à l'occasion de cette tragédie. Et j'ai regretté qu'effectivement, 3 ou 4 abrutis ont focalisé l'attention des médias qui naturellement n'attendaient que cela et qui ont retenu soi-disant des propos homophobes, voire des bras tendus qui signifieraient un signal hitlérien. Rien n'a été prouvé, mais en tout cas, naturellement, tous ces journalistes qui, lors des manifestations pro Hamas, n'entendent pas « mort ou juif » quand ils sont prononcés, là, se sont précipités pour essayer de caricaturer cette manifestation et y voir un hommage de l'ultra-droite. Donc, c'est naturellement désolant de la manière dont les médias traitent ceci. Ce n'est pas tout à fait une découverte. Mais en tout cas, je retiens effectivement cette profonde intelligence de toute cette jeunesse et plus généralement, le courage extraordinaire de toutes ces jeunes femmes qui ont votre âge, visiblement, Liselotte, et qui prennent la tête de ce qui avait pris la tête de ces manifestations, qui défient aujourd'hui le machisme de l'islam radical, qui défient le sexisme de cet islam totalitaire, et qui effectivement sont rejetées par les autres féministes qui, elles, se taisent quand il s'agit effectivement d'avoir à condamner la condition des femmes, singulièrement dans les cités. Et donc, j'ai beaucoup une profonde admiration pour ces jeunes femmes-là. Et si j'insiste sur la présence de ces femmes, c'est parce que, dans le fond, elles permettent de contourner et de démentir, si je puis dire, le caractère, s'il fallait le faire, parce qu'ils vont être obligés de perdre un peu de temps pour le faire, de démentir le caractère fasciste qu'il y aurait dans ce mouvement. Vous savez, je vous conseille de relire ce que j'ai fait très récemment, le discours prononcé en 1995 par Umberto Eco, parce que je vous propose son livre-là, qui lui a analysé les causes du fascisme. Et dans les causes et dans les expressions du fascisme, il voit précisément le machisme. Le machisme et le recours également à la novlangue orwellienne qui vide les mots de toute leur substance. Or, quand vous avez des jeunes femmes courageuses qui mènent la marche pour dénoncer effectivement un islam radical, on est tout sauf dans le machisme là. Et en plus, ce sont des jeunes femmes qui sont en effet très intelligentes et qui ont un discours très structuré, qui est très loin des marqueurs idéologiques de cette pensée orwellienne qui répète des mots et qui suscite de la part de la presse mainstream des sortes de copier-coller. Et donc, ce que j'ai vu ne me paraît pas du tout ressembler effectivement à la caricature qui a pu être donnée. Et ce que j'ai vu plutôt, c'est l'apparition chez les opposants, chez ceux qui caricaturent ce mouvement, d'une pensée totalement sinistrée, une pensée de gauche totalement sinistrée, qui se montre même incapable d'accepter le désaccord, sinon en hurlant au fascisme et donc en essayant de justifier une sorte d'antifascisme de carnaval. On en est là pour l'instant.
Alors justement, l'antifascisme brandi par la gauche n'a-t-il pas atteint ses limites?
Moi, je l'espère, bien sûr, mais enfin, on l'a vu malgré tout, c'était mon préalable. Cet antifascisme de carnaval a néanmoins intimidé une partie de l'opinion qui, malgré tout, n'a pas osé se joindre au cortège. Moi, je préférerais même qu'il y ait une grande manifestation nationale, je crois l'avoir déjà dit sur votre antenne, afin de montrer, de jeter bas les masques et de montrer l'urgence qu'il y a pour les Français aujourd'hui à défendre leur pays menacé par ces fossoyeurs. Mais de toute façon, on peut être sûr, j'en fais le pari auprès de vous, que la chasse aux fachos, la grande quinzaine des fachos, va maintenant rythmer toute la vie politique jusqu'au présidentiel, car c'est le seul argument maintenant que la gauche va développer. Et je vous mets mon billet que également. Même si l'on entend François Hollande, par exemple, dire que jamais de la vie, désormais, le Parti socialiste ne se ralliera à la France insoumise, tout ceci est de la foutaise, car bien sûr, cette gauche-là se rassemblera à nouveau autour d'un cordon sanitaire, et d'ailleurs cela a déjà commencé, parce que ce n'est pas simplement la France insoumise qui voit du fascisme partout, mais c'est toute la gauche, et même toute la Macronie, dans le fond, qui elle aussi est incapable d'analyser quels sont les soubresauts de la société et qui va maintenant caricaturer toute opposition en fascisme. Et donc, en effet, nous allons retomber dans cette grande imbécilité d'un fascisme qui devrait mobiliser toutes les gauches. On a bien vu d'ailleurs que Jérôme Guedj, que j'avais salué pour les critiques courageuses qu'il avait portées contre Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas si longtemps que cela, a tout de suite oublié ces critiques-là pour dire que s'il avait à choisir entre LFI et le Rassemblement national, il choisirait LFI. Donc on retombe toujours dans ces mêmes travers. Mais malgré tout, ce qui me rend optimiste, parce que je suis optimiste, c'est que l'on voit à travers ce manichéisme rudimentaire que ce qui était l'intelligentsia, la gauche intelligente, il y a eu une gauche un peu intelligente, enfin, l'intelligentsia d'hier, si je puis dire, ne montre plus maintenant qu'une pensée atrophiée, manichéenne, en effet, une pensée sinistrée. J'ai entendu Martine Aubry, pas Martine, pardon, Manon Aubry, hier, nous expliquer que s'il y a des antifascistes, c'est qu'il y a des fascistes. En s'épargnant le fait de démontrer qu'elles pourraient être des fascistes. C'est comme ce type qui a un marteau et qui voit des trous partout. J'ai entendu Mélenchon également reprendre une critique de l'humanité tout à l'heure et pour essayer de faire interdire Némésis. On en arrive là. Maintenant, c'est Némésis qui va être interdit. J'ai entendu la grande sottise, alors qui a pulvérisé toutes les imbécilités, la grande sottise de Ségolène Royal qui, samedi, a dit en parlant de Quentin qu'il était présumé néo-nazi et antisémite. Cette femme prétend à la présidentielle. Et disant cela, elle justifie dans le fond le meurtre de la bête immonde. Quand vous désignez l'adversaire comme étant fasciste, vous incitez dans le fond, effectivement, à l'élimination et à l'éradication. Et donc ce que l'on a sous les yeux, dans le fond, ça porte un nom et ce que l'on a sous les yeux porte tous les attributs de la pensée totalitaire, on en est de la pensée stalinienne. Et d'ailleurs, Mélenchon, maintenant, quand il cite l'Humanité et quand il cite le Parti communiste, se range effectivement à cette pensée totalitaire, à cette pensée stalinienne qui n'est pas vue, qui n'est pas dénoncée, et c'est bien là le drame, par les médias mainstream. Et non seulement cette pensée totalitaire s'impose, mais elle nie les faits dans une imbécilité incroyable, parlant en tout cas du meurtre de Quentin, qui, à la limite, si on l'entendait, n'aurait pas eu lieu. Elle se victimise même, et puis elle insulte, en effet, tous ceux qui lui apportent la contradiction. Et la gauche bas du front est en train de tomber dans ce piège, et la Macronie avec elle, quand Macron s'apprête à répondre à la violence d'extrême gauche en allant interdire sans doute tout à l'heure, il y a une réunion à 10 h, en allant interdire des mouvements d'extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez l'absurdité. S'il y a des mouvements à interdire, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si ce n'est pas LFI qu'il faudrait interdire, car c'est LFI maintenant qui est à la source de toutes ces violences. Je galège un peu parce que je suis contre l'interdiction des partis politiques, quoi qu'il arrive, et pas de LFI. Mais enfin, la question pourrait être posée, effectivement, si LFI envisage d'interdire Némésis, je pense qu'il faudrait envisager d'interdire LFI. Quoi qu'il arrive, il y a encore d'autres signes qui me disent, qui m'encouragent à être optimiste. J'ai vu que l'hôtel de la région à Lyon avait affiché en grand le portrait de la victime, ce qui est une bonne chose. J'ai vu qu'il y a l'Assemblée nationale avait fait une minute de silence, et c'est une très bonne chose aujourd'hui. Ce sont des signes qui me permettent de penser que la pensée stalinienne peut être ébranlée, mais elle est encore forte, en tout cas de l'appui des médias. Et donc, j'invite à nouveau les Français eux-mêmes à se tourner, à tourner le dos à toutes ces désinformations, à toutes ces propagandes médiatiques et à ouvrir simplement les yeux, à ouvrir les yeux pour permettre de voir où sont les assassins dans le fond et où sont les victimes. Ce n'est quand même pas bien compliqué à comprendre. Et de ce fait-là, d'essayer d'ouvrir les yeux et de choisir et de voir où se trouve le bien et où se trouve le mal. Je ne veux pas aller plus loin dans ma démonstration, mais il me semble que maintenant, les faits sont suffisamment clairs pour se faire un jugement.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont revu leur jugement justement ces derniers jours en voyant ce dont se rendait capable la gauche. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour cette chronique, cette analyse, et puis je vous dis à la semaine prochaine, même jour.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et comme d'habitude, je cède la parole à Richard de Sèze.
Et surtout à Mériadec Raffray. Bonjour Mériadec.
Bonjour Lisbeth, voilà. Bonjour Richard.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde pour Valeurs Actuelles. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est cher à Emmanuel Macron, la liberté d'expression, free speech is bullshit. Et justement, à Hong Kong, free speech...
Parlons anglais maintenant sur l'antenne de Radio Courtoisie.
Non mais c'est pour éviter d'être aussi grossier que le président en français. Et free speech à Hong Kong, ça, c'est pas vraiment bullshit.
Effectivement, je vous propose aujourd'hui de vous dresser le portrait d'un homme que j'ai appelé le Zec de Pékin. Le Zec, si pour ceux qui ne savent pas ce que c'était le qualificatif employé pour les prisonniers du goulag soviétique. Et j'ai trouvé que cette expression collait bien à une figure qui est à plusieurs titres intéressante, je pense, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, un homme qui s'appelle Jimmy Lai, qui est un tycoon, c'est-à-dire un milliardaire de Hong Kong, et qui était un amoureux de la liberté, qui était aussi un catholique converti, et qui est un amoureux de la liberté, et qui aujourd'hui, depuis le début février, vient de connaître sa peine finale, puisque à 78 ans, après 5 ans de prison et 4 ou 5 procès à la suite, cet homme qui est malade a écopé d'une peine de 20 ans de prison pour, je cite, le tribunal de Hong Kong, le tribunal de West Conlow à Hong Kong qui a rendu sa sentence définitive. À l'encontre de ce citoyen britannique qui est né originaire de Canton en Chine, mais qui n'a pas de passeport, qui n'a pas de citoyenneté chinoise, à l'encontre de cet homme-là, le tribunal, le 9 février, a rendu son jugement. Il est donc passible d'une peine de 20 ans de prison pour, je cite, « atteinte à la sécurité nationale ». Et publication séditieuse et collusion avec l'étranger. Tout ça pour un homme qui effectivement avait le mauvais goût d'être à la fois un milliardaire, un patron de presse indépendant, comme il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui, et un catholique. Tout ça pour un seul homme. Il fallait donc réduire cet homme, Jimmy Lai, au silence. La mission vient d'être accomplie par ce tribunal de Hong Kong. Qui en fait a rendu son jugement avec non pas l'esprit saint mais l'esprit de Pékin qui planait sur lui. Il avait eu la mission implicite de réduire au silence cet homme qui a été porté en fait comme une figure de la liberté d'expression et de l'opposition à la dictature chinoise par non seulement ses congénères mais également par toute une partie du monde libre. Ce qu'on appelait avant le monde libre, on peut aujourd'hui discuter de cette notion, mais en tout cas, en m'intéressant à cette figure que je ne connaissais pas et que certains évidemment connaissent, notamment chez vos auditeurs, ce qui m'a frappé, c'est que Jimmy Lai est peut-être un peu moins connu en France, mais c'est un véritable héros de la liberté, en particulier auprès de toute la frange des MAGA américains conservateurs catholiques, c'est-à-dire cette nouvelle cette nouvelle branche du conservatisme américain qui monte en puissance et dont le porte-étendard, la bannière, est le fameux Jed Evans, qui est le vice-président américain. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Donald Trump avait communiqué en personne sur le cas de Jimmy Lai. En octobre 2025, il avait rencontré en tête à tête le président, son homologue, le président chinois Xi Jinping, du côté de, en Corée du Sud, et il lui avait donc il a communiqué sur ce réseau le fait qu'il a demandé, personne n'était là pour vérifier si c'était vrai, je m'empresse de le dire, pour demander en fait la libération de cet homme, hein, je le cite, c'est un homme âgé, il ne se porte pas bien, et j'ai demandé sa libération, avait écrit donc le président américain sur les réseaux sociaux, à destination en particulier de cette frange des catholiques MAGA conservateurs, pour qui Jimmy Lai est un héros. Et cette... J'ai eu la chance de discuter, de rencontrer son fils, un de ses fils, Sébastien.
Il porte... Qui a été interrogé sur Radio Courtoisie, voilà, dans l'émission Restons Courtois.
Voilà, donc vous avez déjà entendu parler évidemment de Jimmy Lai. Ce qui est frappant tout de suite à propos de cette famille, c'est que tous portent des noms catholiques et parlent tous le français. Ce sont des amoureux de la France, des francophones et des francophiles. D'ailleurs, Jimmy Lai et sa femme Teresa se sont mariés à Paris. Jimmy Lai était connu, je vais revenir outre ses activités, pour sa passion pour la gastronomie française. Il passait une partie de son temps libre. D'ailleurs, je me demande si c'était la nuit, sans doute, tellement il était un entrepreneur boulimique. Il passait une partie de son temps à écrire des livres à destination de ses concitoyens et des Chinois, donc en chinois, en cantonais, sur le patrimoine gastronomique français, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être nommé citoyen d'honneur de la ville de Lyon, mais également de recevoir l'Ordre national du mérite français pour ce lien, pour cette affection, ce lien et cette promotion en fait du patrimoine français. Qui est Jimmy Lai et d'ailleurs, ce qui est passionnant, je disais entrepreneur boulimique, son fils, je ne sais pas si vous a raconté ça, mais son entourage, lui, Sébastien ne peut pas voir son père, mais sa sœur Claire peut le voir. Il a droit à une ou deux visites, ou deux ou trois visites par mois. Ses proches sont frappés par la détermination et l'énergie intacte de cet homme de 78 ans qui, je l'ai dit, est malade. Il nous racontait une anecdote, cet ex-entrepreneur qui se montre combatif et s'en remet au ciel pour la suite, selon les propos de Sébastien. Il raconte comment Jimmy Lai donc est tenu au secret. Il est enfermé dans une cellule sans fenêtre, sans aucune ouverture sur l'extérieur. Lorsqu'il se déplace dans les couloirs, on lui met un voile sur la tête, comme les détenus de Guantanamo, pour anticiper des photos volées, puisque ce serait vraiment le pire du pire pour le régime de Hong Kong, de voir la tête de ce prisonnier de 78 ans étalée à toute la face, à la face de la presse occidentale. Et pendant sa détention, j'ai dit, ça fait 5 ans depuis 2020 qu'il est en détention, il a découvert qu'il pouvait travailler en prison, et le travail que l'on proposait aux prisonniers le suivant, c'est plier des enveloppes. Et aussitôt, cet entrepreneur a demandé à ses bourreaux, quel était le record de pliage d'enveloppes détenues par les prisonniers. Et il s'est empressé non seulement de l'atteindre, mais également de repousser ce record. Pour une raison simple, raconte son fils, c'est qu'il a besoin en fait de l'argent qui lui est fourni en contrepartie, puisque c'est sa seule source d'argent. Il n'a pas le droit de cantiner, comme on dit, enfin il est vraiment tenu au secret, et les gains qu'il fait en pliant les enveloppes, en battant des records, lui permettent de continuer à s'offrir un maigre lot de papier et de crayons de couleur pour s'adonner à son unique passion, qui est dessiner des figures de la Vierge Marie et du Christ en croix. Il y a 15 jours, quand j'ai rencontré Sébastien à Paris, il est venu avec deux dessins de ce prisonnier héros de la liberté, l'une de la Vierge Marie, l'autre du Christ en croix, et c'est tout à fait émouvant de voir ce Chinois d'une autre fuite de monde, d'un autre continent, d'un continent asiatique, tenir bon en prison en se référant en fait au ciel.
Il faut revenir sur les raisons, parce que vous les avez données au départ, ça c'est l'acte d'accusation, mais fondamentalement, Jimmy Lai est un patron de presse, d'ailleurs un patron de presse qui a décidé de ne pas laisser ses journalistes être accusés à sa place et qui a tenu à être accusé lui-même, et qui, au moment où Hong Kong passait sous contrôle chinois, donc lâché par l'Occident, a décidé de se battre pour conserver la liberté de Hong Kong, et donc a écrit et a fait écrire un certain nombre de papiers et d'éditoriaux contre le régime communiste chinois, et c'est pour ça en fait qu'on l'accuse de collusion avec l'ennemi, à cause d'une loi sécuritaire passée à Hong Kong, qui est une loi d'exception et une loi inique, qui permet en fait d'embastiller tous les ennemis du régime. C'est pas en Europe qu'on verrait ça.
Tout a basculé en fait pour Jimmy Lai en 2014 puis en 2020, mais pour comprendre les raisons pour lesquelles tout a basculé et reprendre votre explication, je voudrais, si vous voulez bien, revenir à l'origine. C'est une histoire en fait. Cet homme décide, embrasse la liberté et l'indépendance, c'est parce qu'il a une histoire personnelle qui est assez incroyable. C'est une personnalité forte. C'est un homme entreprenant, c'est un homme libre, et pour le comprendre, il faut raconter son histoire, si vous voulez bien, puis évidemment, c'est deux moments fondateurs de 2014 et 2020, on y viendra. On croit qu'il est né en 1947, je crois qu'on a un doute sur sa date de naissance. Il est né, je le disais, à Canton, dans une famille ayant fait fortune dans les transports maritimes. Mais très vite, le jeune Jimmy est privé de son père deux ans plus tard, je pense, car son père est d'une famille bourgeoise. Il est donc pourchassé par les maoïstes et il a fui le goulag maoïste d'ailleurs à Hong Kong. Et quant à sa mère qui est restée sur le continent, elle doit passer son temps dans un camp de travail pour être rééduquée. Le jeune Jimmy à 9 ans n'a pas beaucoup de quoi manger, donc il survit en guettant les pourboires de ses congénères dont il porte les valises, notamment à la gare de Canton. Et c'est à ce moment-là que son fils explique que son destin va une première fois basculer, la chance en quelque sorte lui sourit. Un jour, il porte la valise d'un voyageur celui-ci est ému par l'attitude du jeune garçon qui évidemment doit avoir les traits assez émaciés et il lui offre un bout de chocolat et l'homme vient de Hong Kong et aussitôt l'enfant associe l'île de Hong Kong qui à l'époque est sous gouvernance britannique. L'enfant l'associe à un rêve de paradis, selon les mots employés par son fils lui-même. On est déjà là dans quelque chose d'une histoire qui dépasse l'histoire humaine. Et l'enfant n'a de cesse ensuite que de vouloir prendre la fuite en direction de Hong Kong. Pour ceux qui n'ont pas forcément la géographie chinoise en tête, Canton en fait est une grande ville du sud de la Chine qui se trouve lovée au cœur d'un estuaire d'un grand fleuve qui se jette à la mer dans cette presqu'île dans laquelle se trouve Hong Kong. Et donc le jeune Jimmy un jour saute dans une jonque comme passager clandestin, descend le fleuve jusqu'à Hong Kong et atterrit là dans cette île assez extraordinaire par rapport à à la Chine qui est tombée sous le joug communiste, qui est retombée au Moyen-Âge et surtout, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est dans une période antédiluvienne. Il n'a pas d'autre choix que de louer ses bras pour assurer sa propre pitance quotidienne et il frappe à la porte d'une usine de textile où il est embauché immédiatement pour un salaire de misère. Et là, deuxième coup de chance ou deuxième clin d'œil du sort, ce garçon, au lieu de se laisser mourir, fait preuve d'un zèle assez incroyable au travail et il est repéré par un vieux contremaître hongkongais qui le prend sous son aile et qui le soir, après une journée de travail harassante, lui apprend l'anglais. Et c'est là que les choses vont tout de suite s'accélérer pour le jeune, qui de fil en aiguille se montre très doué pour non seulement, enfin d'abord il ne rechigne pas la tâche, mais surtout il se montre il a la bosse des affaires, comme beaucoup de Chinois d'ailleurs. Il passe les grades, il devient contremaître et puis il prend des risques, il investit un jour les primes qu'il a reçues pour ses bons et loyaux services à la bourse de Hong Kong, où il réussit à lever des fonds suffisants pour racheter un concurrent en faillite. Et c'est le début de l'aventure entrepreneuriale pour le jeune Chinois. C'est assez incroyable, à 30 ans, ce fameux Jimmy Lai est à la tête d'une société qui s'appelle Comitex et qui est un industriel qui fabrique en marque blanche pour des clients dans le monde entier, en particulier des Américains.
Du textile.
Voilà, exactement. Il fabrique des pulls pour les plus grandes marques américaines de pull-over de l'époque. Il est déjà la principale usine délocalisée à Hong Kong du marché américain. Quelques années plus tard, ce Jimmy qui a le boss des affaires, je le disais, qui est surtout un observateur fin de ce qui se passe, crée et dirige son propre empire de distribution de vêtements. C'est la fameuse marque Giordano, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est au début des années 80 et 90, la première enseigne de textiles, de vêtements, de boutiques de vêtements dans toute l'Asie. Je vous citais quelques chiffres, c'est assez incroyable. On est au début de la décennie 90. Il emploie 8000 personnes. Il est à la tête de 2400 boutiques dans 30 pays. Et la majorité d'entre eux se situent dans l'Asie, y compris en Chine continentale. Simplement, et c'est là où j'en viens à votre explication, c'est pourquoi on parle de Jimmy Lai, c'est qu'entre-temps, le destin politique de la zone et de la Chine va basculer. Deux événements importants interviennent dans ce paysage hongkongais très favorable en fait à l'entrepreneuriat quand on n'a pas peur de travailler, voire même comme un esclave. Le premier événement, c'est évidemment le massacre de la place Tiananmen par les autorités chinoises. Les Chinois massacrent leur propre peuple.
À la fin du XXe siècle.
En 1989, exactement. Et c'est un bain de sang pour mater en fait la révolte des petits Pékinois face au joug communiste. Ça, c'est vraiment un événement qui va changer la perception du monde que le monde a de la Chine, et évidemment que les Chinois exilés qui ont fui de la dictature peuvent avoir de leur pays d'origine. Et puis le deuxième événement qui est lié au premier, c'est la perspective du retour de l'île de Hong Kong à la Chine continentale, puisque la couronne britannique prépare la restitution de l'île à Pékin pour 1997. Donc vous voyez, 89-97, une décennie qui permet à des entrepreneurs comme Jimmy Lai de faire des affaires incroyables et d'esquisser ce que va être la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire l'usine du monde. Juste, je me permets une petite assise contemporaine. En 2025, le solde de la balance positive de la balance commerciale chinoise, c'est 1500 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, pour vous donner un exemple, dans les plus belles années fastes, le solde de la balance commerciale allemande, c'était 200 ou 300 milliards de dollars. Donc, voyez
la Chine est le créancier du monde entier.
Voilà, ce qui est assez incroyable, c'est que la Chine est l'industrie du monde entier. Donc, ça vous donne quelques éléments de comparaison. Et Jimmy Lai, voyant et surtout entrepreneur visionnaire, mais pas seulement entrepreneur visionnaire, c'est-à-dire qu'il avait aussi ancré en lui cette soif de liberté, cette vision de la Chine qu'il avait quittée, il voyait où allait la Chine. Et il décide de créer, d'adosser à son empire industriel, un empire de presse, c'est le début de son empire de presse. Il crée son premier média qui s'appelle le quotidien Apple Daily. Nous sommes à peu près en 1995, si je ne dis pas de bêtises. C'est un quotidien qu'il crée à l'image de quotidiens occidentaux qui sont très connus, notamment le quotidien britannique The Sun, qui est ce qu'on appelle un tabloïd, c'est-à-dire comment dirais-je, un magazine un peu populaire ou populiste, ça dépend comment, voilà, qui est un peu trash pour employer un mot bien français, mais j'ai vu que vous aviez vous-même utilisé des expressions anglaises, donc je m'engouffre dans cette brèche.
Ça m'apprendra.
Voilà. Et également sur le modèle de quotidien américain, notamment USA Today. C'est un quotidien qui adopte dès le début un ton libre, indépendant, et qui très vite se fait remarquer en traquant les sorties de route des milliardaires de l'île, car évidemment, sur l'île, Jim Reid n'est pas le seul et le premier milliardaire, il y en a plusieurs. Et il comprend, cet entrepreneur incroyable, il comprend que c'est semblable, en tout cas c'est semblable au sens de l'argent, sont déjà prêts finalement à composer avec les prochains maîtres de l'île pour sauver leur patrimoine et sécuriser leur fortune. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jimmy Lai raconte comment, Sébastien, son fils, raconte comment son père, à un moment, est entrepris par ces très très grandes et puissantes familles de l'île, qui lui proposent des budgets publicitaires annuels colossaux. Et en fait, qui cache, donc ils lui disent, voilà, on va vous prendre des millions de dollars de publicité annuelle, on vous garantit un flux annuel. En contrepartie, demandent ces milliardaires à Jimmy Lai, en contrepartie, vous changez de ton vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de nous, ce qui est une manière élégante, je ne sais pas, mais détournée d'acheter en fait le silence du triblion des médias hongkongais, et Jimmy Lai les envoie se faire cuire un œuf. Son entreprise de presse prospère, je passe, il multiplie le nombre de titres, mais avec son navire amiral, le The Apple Daily, il s'impose comme le numéro 1 de la presse quotidienne dans l'île, avec 300 à 400 000 exemplaires diffusés chaque jour. Dans une île qui pèse à peu près 7 millions d'habitants, son lectorat, lui, se compose à environ de 8% de ces 7 millions d'habitants, une force de frappe colossale, qu'il décide... Et on arrive à 2014, qu'il décide de mettre au service des manifestants, puis des manifestants des parapluies, le premier mouvement en fait de rébellion, de révolte de l'île, qui naît en fait à l'été 2014, en réaction à un projet des autorités, donc du gouverneur de Hong Kong, d'amoindrir la part du suffrage universel dans le processus de désignation du futur gouverneur. Et c'est une loi, évidemment, qui est téléguidée en sous-main par Pékin, qui a décidé en 2014, donc 97, la rétrocession de l'île, 2014, Pékin a décidé de reprendre en main directement cette île, et donc téléguide depuis Pékin un certain nombre de dispositions qui vont lui permettre de reprendre reine courte cette île dissidente dont les lumières claquent au visage de Pékin. Plus question d'afficher cette dissidence, ou en tout cas, sera une dissidence vraiment contrôlée. 2014, été 2014, ce mouvement se fait tache d'huile pendant tout l'automne 2014, et le principal porte-parole, l'homme de presse, le principal porte-parole de ce mouvement, c'est le patron du Apple Daily, qui prend fait et cause d'entrée de jeu, vous le disiez, avec des éditoriaux, des reportages, des analyses de ces journalistes sur ce mouvement, à telle enseigne qu'un 13 octobre 2014, sans le savoir, Jimmy Lai, qui lui-même descend dans la rue pour manifester, hein, c'est pas seulement un patron de presse avec une énorme Bentley, il mouille la chemise, il descend dans la rue et il se fait, à son insu, photographier par les photographes du Time Magazine. Il se retrouve en une le 13 octobre le célèbre hebdomadaire britannique. On le voit aux côtés d'un manifestant, enfin on le voit, on ne sait pas que c'est lui, mais tout le monde, tous ses proches le savent, et je pense que la rumeur court assez vite. On le voit aux côtés d'un manifestant, le dos courbé, les bras se cachant le visage pour essayer en fait d'atténuer le nuage de gaz lacrymogène qui les entoure, ce qui lui vaut en fait d'être arrêté par les autorités de l'île, puis brièvement, puis relâché, mais également une popularité qui à ce moment-là monte en flèche chez les manifestants qui sont plusieurs centaines de milliers, ce qui est considérable. Le destin, donc première bascule du patron de presse 2014, et son destin bascule une seconde fois. Alors, en réaction en fait à cette prise de risque, Pékin envoie un signal dissuasif fort à Jimmy Lai, puisqu'il il lui demande de se taire. Et évidemment, Jimmy Lai répond par une fin de non-recevoir. Et dans la foulée, toutes ces boutiques donc de sa marque de vêtements sont confisquées par les autorités chinoises sur...
la Chine continentale.
En Chine continentale. Donc c'est, c'est clairement un message envoyé. Si tu continues, tu vas avoir des ennuis. Et cinq ans plus tard, la dissidence de ces Hongkongais fiers et libres réapparaît. Elle renaît de plus belle avec un projet de loi qui autorise les extraditions en Chine. Nous sommes en 2020, c'est la fameuse loi sur la sécurité nationale dont vous parliez tout à l'heure. Et là, c'est vraiment un affrontement dur, fort. Les manifestants sont plusieurs centaines de milliers pendant des jours. Et la police frappe les manifestants. Le choc est profond. Cette loi, en fait, donne carte blanche aux autorités pour mater les contestataires. Le 10 août, Jimmy Lai est arrêté, son journal saisi. Et le dernier numéro d'Apple Daily date du 24 juin. Il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est une manière pour les Hongkongais de manifester, non pas dans la rue, mais en achetant ce journal, en montrant aux autorités qu'elles soutiennent ce ticoun qui n'a pas peur de perdre beaucoup pour la défense de la liberté et de ses valeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce fameux numéro du 10 août est un véritable collector qui s'arrache sous les manteaux dans les salles de vente.
Alors, il faut quand même préciser que voilà, il a perdu ses boutiques en Chine continentale, son journal est arrêté. Autrement dit, la Chine l'arrête sous des prétextes d'abord fallacieux, une histoire de bail absolument abracadabrante, l'envoie en tôle, donc ruine son journal.
Nous sommes en 2020.
Donc c'est vraiment admirable. Évidemment, l'Occident, le monde libre laisse faire, et singulièrement la France, qui lutte évidemment pour la liberté des Ouïghours, mais qui considère que la presse libre est sans doute bullshit, comme dirait le président Macron. Et c'est aussi un de ses compagnons de route, le cardinal Zen, qui lui aussi est embastillé par les Chinois. Il y a une répression féroce, en fait. Des milliers d'Hongkongais sont envoyés en prison.
Ce qui est assez touchant, c'est le 9 février, lorsque le tribunal de Hong Kong a rendu son ultime verdict. Il y avait dans la salle du tribunal son épouse, l'épouse de Jimmy, qui s'appelle Teresa, en référence à la grande sainte Thérèse d'Avila, dont elle suit les traces de manière revendiquée. Il y avait aussi sa sœur, je l'ai dit, Claire. Et il y avait aussi le fameux cardinal Zen, cardinal archevêque émérite de Hong Kong, une figure très admirée des Hongkongais, parce qu'il a refusé Le compromis politique signé par le Vatican et par Pékin en 2018, consistant à normaliser en fait la position de l'Église catholique en Chine, en contrepartie de l'aval de la nomination des évêques, en réalité par Pékin. Et le cardinal Zen s'est toujours opposé à cette magouille politique vaticano-pékinoise. Il est donc une figure aux yeux des Hongkongais, il est une grande figure du catholicisme intransigeant, et il est celui surtout qui a baptisé Jimmy Lai, quand Jimmy Lai était sans doute originaire d'une famille historiquement catholique, mais il avait perdu cet ADN entre guillemets, et il l'a retrouvé notamment en rencontrant son épouse Teresa, qui était elle aussi d'une grande famille catholique chinoise. Et c'est le cardinal qui a baptisé Jimmy Lai et qui a ensuite suivi ce couple catholique tout au long de son existence. Et effectivement, il a été défendu finalement du bout des lèvres par le Premier ministre britannique, dont il est ressortissant, puisque Jimmy Lai est un ressortissant britannique. Et il a également bénéficié, je pense, des prières de Benoît XVI, puisque avant le verdict du procès, Teresa, son épouse, était reçue en audience privée par Léon XIV à Rome. Et il a été aussi défendu par Trump, mais lui, le francophone et le francophile, n'était pas le bon prisonnier politique, politiquement correct. Il n'a pas eu droit à un mot des autorités françaises.
Mais merci beaucoup, Mériadec Raffray, pour l'évocation de cette grande figure de la liberté.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique de Victor Aubert. Bonjour Victor.
Victor.
On a entendu la fin de votre phrase, mes chers auditeurs. Victor vient de vous dire bonjour. Alors Victor, vous étiez en vacances en famille la semaine dernière. Comment avez-vous réagi à la mort de Quentin de Ranque ?
Alors comme beaucoup, Liselotte, j'ai d'abord été sidéré. Et puis, très vite, une impression plus large, cette mort a provoqué une secousse dont je crois que nous ne mesurons pas encore l'ampleur. J'ai appris son agression par une demande de prière qui était transmise par des amis d'Academia Christiana. Et les circonstances étaient d'une violence inouïe. Alors j'ai demandé autour de moi si certains connaissaient ce Quentin. On m'a expliqué que Quentin avait assisté à l'une de mes conférences à Lyon en 2025, qu'il avait participé à un pèlerinage dans le chapitre d'Academia Christiana en Provence. Et tous ceux qui fréquentaient Quentin m'ont long décrit de la même manière. Un garçon discret, réfléchi, profond, pieux, généreux. Alors j'ai vécu la semaine dernière ce torrent médiatique qui a suivi sa mort lors d'une semaine où j'étais en congé en famille. J'ai essayé d'éloigner mon téléphone pour me consacrer davantage à mes enfants, mais j'étais en permanence hanté par cette avalanche de commentaires en tout genre. J'ai été particulièrement ému aussi et édifié par le courage dont ont fait preuve ses amis proches, Dometti, Vincent, Baptiste, en prenant le risque de s'exposer aussi à la haine de ces aboyeurs vociférants.
Et la mort de Quentin est-elle, selon vous, le signe d'un retour de la violence politique ?
Je crois que c'est une question centrale, Lisotte, parce que la violence politique n'est évidemment pas un phénomène nouveau en France. Le fait d'utiliser un combat physique contre un adversaire, qu'il soit politique, religieux, ça a trouvé son apothéose en France au moment des guerres civiles. On peut penser aux guerres de religion, on peut penser au régicide, on peut penser à la terreur révolutionnaire, au massacre des Vendéens, à la Commune de Paris. Même en mai 68, il y avait une violence politique encore plus forte qu'aujourd'hui. Et jusque dans les années 1980, les affrontements, qu'ils soient entre militants nationalistes, communistes, étaient plutôt musclés. Peut-être certains se souviennent des blocages de fac lors du projet du contrat première embauche, le CPE, en 2006. Mais néanmoins, on peut constater que depuis 30 ans, la violence politique, elle avait presque disparu au profit d'autres formes de violence. Le racket, les agressions sexuelles, les coups de couteau, les bolossages, les voitures brûlées, les caillassages de commissariat, tous ces règlements de compte entre trafiquants de drogue, braquage de convois de fonds, etc. Ou encore même, parfois, la violence des forces de l'ordre disproportionnée par rapport à la menace physique des manifestants. On peut penser aux manifs pour tous, on peut penser également aux gilets jaunes.
Alors, comment expliquer cette diminution de la violence politique ?
Alors, d'une part, je pense parce que le suffrage universel a toujours été pensé comme une alternative à la violence. D'autre part aussi parce que l'État s'est doté de moyens dissuasifs considérables, la dissolution d'associations, les poursuites judiciaires, des peines très lourdes, une surveillance administrative. On peut penser aux dures peines qui ont été encourues par de nombreux militants pour des faits de violence minimes. Je pense à un de mes amis, François Aubergana, qui s'était défendu en donnant un coup de poing à son agresseur face à l'attaque à l'époque de l'Alvarium par des milices d'extrême gauche en 2021. Il a été condamné à de la prison ferme. On peut penser à la dissolution du bastion social, la dissolution d'associations accusé d'incitation à la haine sans jamais aucune violence physique. Gérard Sanitaire, Raquel Mercriala, on en a vu encore d'autres hier qui ont été nommés par le président Macron.
Et est-ce qu'on peut séparer la question de la violence politique des débats idéologiques ?
Eh bien, en vérité, je crois que non. C'est parce que, déjà d'une part, les débats politiques des années 90-2000 étaient centrés sur des questions, au final, de moyens mis en œuvre pour atteindre des objectifs qui sont fixés par avance par une société libérale, diversitaire, que la violence politique était sans doute devenue un phénomène marginal. Parce que on ne se bat pas pour des enjeux qui ne se sont pas susceptibles de nous enflammer, au moins de manière subjective. On peut se battre pour défendre sa survie, on peut se battre pour la vraie justice, on peut se battre pour la liberté, mais on ne se bat pas en réalité pour des débats entre le centre-gauche et le centre-droit sur les retraites ou la privatisation des transports publics. Donc la violence, c'est devenu une expression très vite intolérable qui disqualifie immédiatement son auteur Et la démocratie libérale s'est enorgueillie d'être celle où, justement, le débat et la délibération remplacent la violence. Même après les attentats de Charlie Hebdo, après ceux du Bataclan, après la mort de Samuel Paty, la seule réaction admise, c'était celle de la marche blanche, des pancartes, vous n'aurez pas ma haine, des bougies, des peluches, etc.
Et comment expliquer la réapparition de la violence politique dans une époque qui avait tout fait pour la chasser, justement ?
Alors, beaucoup de commentateurs se sont échinés, après la mort de Quentin, à marteler que toute droite, qu'elle soit patriote, conservatrice, nationaliste, se réduisait à une forme de néo-fascisme d'essence violence. C'est-à-dire que la violence dite antifasciste serait donc seulement la réponse proportionnée à la menace physique perpétuelle imposée par la droite. Et la seule violence, donc encore légitime, la seule violence que la justice laisse impunie aujourd'hui, c'est cette violence de gauche, hein, qui s'exerce au nom de la lutte contre mal. Et dans ce cadre narratif, bah, la violence dite antifasciste, entre guillemets, devient presque une violence préventive, légitimée par avance.
Et selon vous, est-ce une tendance propre à la gauche nouvelle génération ?
Je crois qu'il faut regarder les faits, hein, parce qu'il y a de nombreux sondages qui attestent d'une plus grande tendance à justifier la violence contre ses adversaires politiques chez les jeunes. Hein, la tendance n'est pas que française. Aux États-Unis, il y a un sondage qui a été effectué une semaine après l'assassinat d'une balle dans la carotide du militant conservateur Charlie Kirk sur un campus. Et donc, il y avait 31% des élèves progressistes, donc de gauche, entre 18 et 29 ans, qui étaient d'accord avec l'affirmation suivante : le recours à la violence physique est parfois justifié pour empêcher une personne de tenir des propos blessants. C'était donc 4 fois plus que chez les jeunes conservateurs du même âge, donc 7%, et beaucoup plus fort chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc si la vieille génération de gauche, elle était prête à condamner à la mort sociale ses opposants, la violence restait pour elle un tabou politique. Pour ce qui est de la génération Z, eh bien, elle est beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus sensible aussi à toute forme de micro-agression. Et pour elle, bah, un discours qui va à l'encontre de ses convictions les plus intimes représente une menace sérieuse qui va légitimer la violence.
Alors, vous dites aussi que l'idéologie de la gauche n'est pas pour rien dans ce phénomène.
Bah, tout à fait, parce que les mentalités sont conditionnées, à force d'endoctrinement scolaire, politique, médiatique, à accepter cet état de fait. Si la gauche est accusée du meurtre d'un jeune homme, eh bien, elle va tout de suite immédiatement diminuer sa culpabilité en justifiant l'assassinat sur le profil de la victime. Certains observateurs ont remarqué que la semaine dernière, l'adjectif ultra-droite a cédé la place à celui de néo-nazi. Et donc si on tue un nazi, bah, forcément on est un résistant. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc on considère aujourd'hui à gauche qu'on peut attaquer de manière préventive une personne qui porte un discours même qui serait non-violent en quelque sorte. Et tout ça permet justement de le justifier.
Bah, et ne pensez-vous pas que la droite a aussi commis des violences politiques, au fond, à Victor Aubert ?
Bah, si on est un peu sérieux, on remarque que jamais aucun mouvement militant de droite structuré en tant que tel n'a tenté de s'en prendre à qui que ce soit par une quelconque violence physique depuis au moins les années 90. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement politique de droite, des jeunes ont été amenés à se battre, ça a toujours été pour se défendre d'une attaque qui venait de la gauche. Ni le Front National, ni l'Action Française, ni la Coquerelle étudiante, ni Génération Identitaire n'ont jamais cautionné un acte violent. Et si jamais un de leurs militants se commet dans une bagarre, il sera immédiatement désavoué par l'institution. C'est l'exact inverse dans le cadre de Jean-Luc Mélenchon et de la Jeune Garde.
Et que retenez-vous de la manifestation de samedi à Lyon ?
Elle s'est déroulée sans mort, sans lynchage, sans aucun blessé, sans dégâts, malgré moult provocations extérieures. L'effroyable marche des fascistes, des heures les plus sombres, au ventre fécond, du bruit des bottes, elle s'est mieux déroulée que 100% des manifestations gauchistes et bien sûr que des manifestations des cités. Alors, on peut évidemment compter sur les autorités, les médias, comme on l'a vu hier, avant-hier, etc., pour salir par tous les moyens la mémoire de Quentin, mais en réalité, tout ça est encore une fois une propagande et un mensonge.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien, déjà, on peut espérer que dans quelques jours, les assassins de Quentin pourront peut-être prendre une peine de prison à la hauteur de ce qu'ils ont fait, et dans ce cas-là, la justice aura fait son travail, mais cela, je crois, ne suffit pas. La tentation naturelle face à un tel drame, c'est évidemment la rage. Mais cette rage pure, stérile, elle s'épuise, elle divise et elle nous consume. Donc la seule réponse durable, à mon sens, elle est constructive. Quentin participait à des pèlerinages, eh bien, je vous invite à faire grandir ces pèlerinages. Quentin assistait à des conférences, eh bien, je vous invite à multiplier ces conférences. Quentin cherchait à vivre sa foi et son engagement, eh bien, je vous invite à approfondir les vôtres. Je pense que le meilleur hommage que on peut rendre à Quentin, c'est de continuer le combat que son martyr nous oblige tous à mener. Plus que jamais, il faut nous engager comme Quentin. Ça nous oblige à nous mettre encore plus au travail, à ne pas tomber dans une rage stérile, mais au contraire, à faire en sorte que justement cette rage puisse décupler nos forces pour qu'un jour, l'idéal que portait Quentin puisse triompher.
C'est d'ailleurs aussi ce qu'appelaient à faire ses amis qui ont pris la parole ces derniers jours à notre antenne ou lors des différents hommages. Donc, on ne peut qu'approuver la démarche. Merci beaucoup, Victor Aubert, pour cette chronique. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour, Gilles.
Bonjour Liselotte, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs.
Bon, vous n'êtes pas avec nous en studio parce que vous êtes en direct de Limoges où vous avez assisté à la finale du deuxième championnat du monde du chou farci. Vous avez une bonne nouvelle à nous apprendre, Gilles.
Oui, alors au cœur de la manufacture Bernardo, Olivier Caillon, cuisinier et charcutier chez Arnaud Nicolas dans le 18e à Paris, a gagné pour la France face à 6 autres candidats. Coréen, japonais, chinois, indonésien, canadien et anglais. Alors, son chou farci que j'ai bien sûr dégusté, ma chère Zlot, vous me connaissez, est un hommage à sa grand-mère native de l'Est. Alors, c'est garni d'une farce de poitrine de cochon aux champignons, petits légumes et d'une emberrée de choux auquel il a ajouté des riz de veau et du foie gras, enveloppé d'une farce fine aux trompettes de la mort, avec du vin jaune et des baies de Genève. Alors, c'est un vrai délice, superbement présenté. On va peut-être voir des images. Le jury présidé par Philippe Etchebest, avec notamment Pierre Hermé comme juré, c'est assez original, devait juger la présentation du chou tranché, la technique de montage, la cuisson, l'équilibre gustatif, son assaisonnement et la créativité du chou farci, comme la sauce végétale qui était obligatoire. Alors la presse locale ici se fait l'écho de cet événement qui a réuni une foule immense sous les halles centrales de Limoges, comme le relate le Populaire du Centre. Et dans un entretien, Philippe Etchebest raconte que c'est le plat du pauvre. On le faisait avec les restes du frigo. Et puis il s'est embourgeoisé. C'est un plat populaire qui a fait le tour de France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est interprété à l'international. Il précise qu'on le trouve bien sûr en Corrèze, en Limousin, en Ariège et dans pas mal d'endroits en France. Et j'ajoute, ma chère Liselotte, que le chou farci est comme le pâté en croûte. On n'a jamais fini de le réinventer et de le célébrer, notamment par ce genre de concours international.
Bon, j'allais vous dire, je regrette que vous n'en ayez pas apporté, mais enfin, il est
c'est
9h30.
Compliqué.
Bon, je pense que j'aurais été capable d'en manger, j'aime tellement ça, mais bon. En tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche.
Vous êtes capable de tout, hein, Liselotte.
Oui, bon allez, dimanche, chou farci. Revenons à l'actualité internationale,
oui.
Gilles. L'Ukraine commence sa 5e année de guerre avec la Russie.
Oui, alors il y a 4 ans, écrit Arnaud Florac sur le site de Boulevard Voltaire, sous le prétexte de l'exercice Zapad, vous savez, l'armée russe franchissait la frontière ukrainienne, espérant conquérir par une attaque fulgurante ce pays auquel, au fond, elle ne reconnaît aucune légitimité. Alors, lors de son interview par le journaliste américain Tucker Carlson, Vladimir Poutine avait passé une demi-heure à donner un cours d'histoire aux téléspectateurs d'outre-Atlantique sans être interrompu. Et, ajoute le journaliste du site, en un mot, commençant, le président russe avait voulu légitimer son action. Il y avait déjà là de quoi être impressionné, que l'on soit d'accord ou non, pour nous qui vivons dans une république qui considère 1789 comme le point zéro de son histoire. Alors qu'en est-il profondément ? Arnaud Florac répond « Pourtant, la plus grande leçon ne vint pas de Poutine ni même de Zelensky d'ailleurs et ne fut pas d'ordre géopolitique, aussi bizarre que cela puisse paraître. 4 ans de guerre ont passé et cela fait autant de temps que le peuple ukrainien lutte sur son sol, pour sa survie, sa souveraineté. Mal préparée, l'armée ukrainienne a dû réorganiser dans l'urgence et elle détient aujourd'hui une expérience tactique de premier plan, singulièrement dans le domaine des drones, mais pas seulement. Alors de son côté, dans un grand article du Figaro, Nicolas Barotte précise « Contrairement aux prévisions les plus sombres, l'Ukraine ne s'est pas effondrée ». 4 ans après le débat de la guerre déclenchée par la Russie, alors qu'on les dit épuisés et écartelés sur un front de plus de 1000 km, les forces ukrainiennes résistent toujours. Elles ont même réussi le tour de force de lancer de nouvelles contre-offensives. En l'espace de moins de 3 semaines, elles sont parvenues à reconquérir 400 km. C'est féliciter le chef de l'état-major ukrainien, le général Oleksandr Sirtsky. Alors, c'est peu de terrain, hein, néanmoins, quelques localités seulement dans le sud-est du pays, alors qu'en 2025, le bilan est tout aussi maigre. Il ne représente que 1% du territoire ukrainien, malgré les pertes humaines colossales. Jusqu'à 30 000 morts et blessés par mois, soit 426 000 morts et blessés en 2025, selon une source militaire. Et l'année dernière, la Russie a aussi perdu 1 900 chars d'assaut, mais ce bilan n'a pas entamé la volonté de Vladimir Poutine. La guerre paraît être dans une impasse.
Et quel bilan peut-on en tirer d'un côté comme de l'autre ?
Alors toujours pour Nicolas Barotte dans le Figaro, l'objectif immédiat pour l'Ukraine, comme pour la Russie, n'est pas de gagner la guerre, mais de ne pas la perdre. La Russie est menacée par l'effondrement, le blocage est complet, le Kremlin maintient ses positions maximales, maximaliste même, et l'Ukraine refuse de céder des territoires. Les États-Unis tergiversent, les Européens affirment toujours soutenir l'Ukraine, mais leurs moyens militaires sont limités, et l'Union doit aussi faire face à ces dissensions internes. La Hongrie, par exemple, pro-russe, a décidé de bloquer le dernier paquet de sanctions et l'octroi d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tandis que la Slovaquie accuse aussi l'Ukraine d'empêcher la rouverture de l'oléoduc. L'armée ukrainienne a ainsi profité de la rupture des communications par satellite, ça c'est drôlement important, du côté russe. Les protestations de Kiev auprès d'Elon Musk ont porté leurs fruits, puisque vous savez, le milliardaire a accepté de couper les connexions dont profitait l'armée russe pour guider ses drones et pour ses communications. Et désorientée, elle a subitement rencontré des difficultés de coordination auxquelles s'est ajoutée la fermeture de WhatsApp qui était utilisé par le commandement russe pour passer ses ordres. Alors l'armée ukrainienne mène toujours des frappes à longue distance contre le territoire russe en espérant convaincre les Occidentaux de lui fournir davantage de missiles SCAP, Storm et Shadow, voire des Tomahawk américains. Et certains sites de production de missiles russes seraient alors à portée de frappe, alors que la Russie en produit désormais potentiellement 150 par mois. Mais les stocks occidentaux ont fondu. Alors voilà ce qu'on peut dire au lendemain de 4 années de guerre sans concession.
Et un mot sur le retour de nos médaillés à Albertville.
Oui, je voulais finir sur une note un peu plus heureuse quand même. Et comme l'écrit aujourd'hui en France, plus de 6500 personnes ont acclamé nos médaillés olympiques, nos médaillés français dans la halle olympique d'Albertville. Cette célébration marque le lancement d'ailleurs des préparatifs pour les JO de 2030, ça se prépare à l'avance, qui auront lieu en Savoie. Et une photo montre les biathlètes français héros des Jeux avec 13 médailles au total, dont 6 titres célébrés par les supporters français. Alors au total, en fait, rappelons-le, la France a remporté, redisons-le, 23 médailles, dont 8 en or, c'est un record. Et Thomas Puyot écrit que la belle ambiance populaire qui a régné ce lundi soir a en tout cas fait oublier la crise que traverse le comité d'organisation. Et je pense que nous en reparlerons bientôt.
Bah oui, volontiers, Gilles. Merci beaucoup pour cette chronique. Et puis, merci.
Demain en studio.
Eh bien oui, on se retrouve en studio. Et puis voilà, si vous pouvez nous rapporter du chou, mais enfin, je ne suis pas sûre que...
Ouais, à conserver, c'est pas facile.
Le trajet. Merci, Gilles.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et on poursuit aujourd'hui, pas de rediffusion, chers auditeurs. Nous sommes avec Yann Valéry, rédacteur en chef de Braze Info. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, Liselotte. Et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on va parler de la façon dont les différents camps politiques ont assumé ou pas, d'ailleurs, l'affaire Quentin. Évidemment, chaque camp politique a été visé de façon différente. On attendait un soutien indéfectible pour ce jeune militant victime de l'extrême gauche de la part du Rassemblement national. Bon, c'est beaucoup plus mitigé que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis, d'un autre côté, une France insoumise qui, tout en affirmant n'avoir aucun lien avec la Jeune Garde, renouvelle son soutien pour l'organisation. Mais vous allez nous en dire plus, peut-être, voilà, déjà de façon générale, comment est-ce que la vie politique s'est organisée autour de cette affaire ?
Oui, effectivement, on a eu... immédiatement après la mort de Quentin, il y a eu une vague d'hésitation à gauche et à l'extrême gauche Les responsables politiques nous ont dit qu'il fallait attendre de savoir qui étaient les coupables de cet assassinat politique, qu'est-ce qui se passait. Donc ils ont fait patienter là où, d'ailleurs, il faut le souligner, dans d'autres occasions, ils n'ont pas eu cette prudence et cette patience et ils ont tout de suite accablé le camp qui les intéressait de nuire. Et en fait, ensuite, on a eu une deuxième vague. Une fois qu'on a bien identifié, que le procureur a expliqué que les militants d'extrême gauche avaient été arrêtés, que les antifas avaient été arrêtés, etc. Là, on a eu une deuxième vague avec une partie de la gauche qui s'est immédiatement désolidarisée de tout cela. Alors, je pense au Parti socialiste notamment, aux écologistes, qui se sont désolidarisés de la violence politique. Mais chez LFI, notamment, il y a eu une ambiguïté parce que d'ailleurs, ça peut se comprendre, parce que ces gens évoluent dans le même écosystème. Donc, ce sont des camarades, ce sont des copains, ce sont des amis pour certains. Et en fait, c'est difficile, normalement, quand on tient à quelqu'un, c'est difficile de s'en désolidariser du jour au lendemain. On ne peut pas abandonner son compagnon en rase campagne. Comme cela, et c'est un peu ce que je soulignais dans une tribune ce matin, c'est que si vous écoutez la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon hier, qu'il a donnée devant la presse alternative de gauche, en fait, il a assumé totalement son engagement et ses liens avec la Jeune Garde, avec les militants antifascistes, y compris les plus radicaux. Et finalement, j'ai trouvé ça assez, non pas choquant, moi ça m'a pas choqué en fait qu'on n'abandonne pas ses amis et ses camarades en plein milieu d'une bataille, ça m'a pas choqué. Il a fait un choix, il fait le choix de la radicalité, du jusqu'au boutisme. Sans doute qu'il y a un calcul politique dedans, mais je pense quand même qu'il y a aussi une question de relations personnelles avec les gens, tout simplement. Et je dresse ce parallèle avec ce qu'il s'est passé du côté de la droite nationale, qui est incarné politiquement, notamment par le Rassemblement national, qui est quand même la grande force d'opposition à Emmanuel Macron dans ce pays, normalement. Et en fait, là, on a vu une attitude tout autre, voire contraire, de Jordan Bardet, là, par exemple.
Alors justement, on peut en dire quelques mots. On salue quand même les quelques élus du Rassemblement national qu'on a pu croiser, notamment, pas ce dimanche, mais le précédent, pendant l'hommage qui a été rendu à Quentin sur Paris. Voilà, on a eu l'occasion d'en interroger certains, notamment Pierre-Romain Thionnet, Mathias Renaud et autres. Mais c'est vrai que sinon, plus largement, ce qui a suivi ce rassemblement, c'est plutôt des consignes et puis une forme d'abstention de la part du Rassemblement national.
Oui, tout à fait. Et en plus, on va dire qu'effectivement, oui, il y a des élus Rassemblement national que je qualifie d'ailleurs plus d'élus de terrain parce qu'eux, ils sont vraiment à côté de leurs électeurs et de leurs militants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les militants du Rassemblement national et des passerelles qu'il peut y avoir d'ailleurs avec des groupes diabolisés où il y a des passerelles claires et quoi qu'en disent les responsables nationaux du Rassemblement national, il y a des passerelles, il y a des amitiés, il y a des camaraderies entre les gens et en fait, il faut simplement les assumer totalement. Et effectivement, on a vu une différence quand même avec la représentation nationale du Rassemblement national qui, elle, a tout de suite voulu condamner non pas la violence antifa, mais les violences politiques. Alors, en mettant dans le même panier d'ailleurs des groupes d'extrême droite, alors que personne ne leur avait demandé de faire ça, de condamner l'extrême droite, mais par exemple, Jordan Bardella, une de ses premières déclarations, ça a été pour dire que s'il arrivait au pouvoir demain, il allait dissoudre certains groupes d'extrême gauche comme certains groupes d'extrême droite. Ce qui est d'ailleurs, il faut le noter, complètement inefficace. En fait, vous pouvez dissoudre des associations, des groupuscules, tout ce que vous voulez. Vous ne dissolvez pas les hommes. Mmh. Vous ne dissoudrez pas les hommes. Il y a derrière ces groupes des individus, des hommes, des êtres humains. Et en fait, eux, à moins de les mettre en prison toute leur vie ou de les exécuter, mais dans ce cas-là, il faut avoir le courage de le dire, vous ne les ferez pas disparaître. Donc, vous pouvez dissoudre tout ce que vous voulez, vous ne changez pas le problème. Ces groupuscules, ces groupes, ces mouvements, enfin, vous les appelez comme vous voulez, ce ne sont que le symptôme d'un malaise profond dans notre société. Et en fait, là où, à mon avis, et je me trompe peut-être, mais à mon avis, là où le Rassemblement national fait une erreur, c'est qu'à force de vouloir se dédiaboliser, à force de vouloir exclure, à force de vouloir épurer son propre camp, il en oublie que quand même, toutes ces associations, tous ces mouvements militants, tous ces militants aussi ont sacrifié, pour certains depuis des décennies, leur temps, leur emploi, leur sang parfois aussi, pour faire émerger notamment les idées autour de la question de l'immigration. Et si le Rassemblement national en est là aujourd'hui, si Jordan Bardella en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces mouvements, parfois certains très radicaux, certes, mais c'est aussi grâce à ces mouvements que les idées de Jordan Bardella, que les idées incarnées par Marine Le Pen, sont diffusées dans la société. Certes, il y a le réel qui a rattrapé beaucoup d'électeurs, beaucoup de Français, tout simplement, mais il y a aussi le travail de terrain qu'on fait depuis des années et des années des militants, et ces militants-là, aujourd'hui, parfois ont légitimement, à mon avis, l'impression de se faire cracher dessus par celui qui est censé les incarner.
Oui. Par ailleurs, Jordan Bardella fait aussi un parallèle qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à la France insoumise qui assume ses liens avec des groupes comme la Jeune Garde, sachant qu'aujourd'hui, donc, il est avéré que ce sont des militants qui en tuent d'autres dans la rue, là où le Rassemblement national, si jamais il devait reconnaître de quelconque lien ou en tout cas une sympathie ou un respect vis-à-vis des militants de droite, jamais n'aurait à répondre de ce genre d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des groupes comme, avant que ce soit dissous, Génération Identitaire, les groupes qui sont visés par ces menaces d'interdiction à droite, c'est des groupes comme Academia Christiana, comme les Natifs, encore une fois, Génération Identitaire, on parle d'actions banderoles, de fumigènes dans la rue, on n'est pas sur des bandes cagoulées qui vont tuer des gens sur le trottoir.
Exactement, c'est aussi cela qui pose problème, à mon avis, dans les réactions du camp national politique, on va dire, c'est que, comme vous venez de le souligner, les associations dissoutes depuis des années, ce ne sont pas, en gros, c'est pas, pour caricaturer, c'est pas la bande de skinhead cagoulés qui va tabasser, ratonner et tuer des gens gratuitement dans la rue. Là, on parle, comme vous l'avez dit, de mouvements et d'associations qui, en fait, ont copié une forme d'agitprop qui était propre à l'extrême gauche à l'époque ou à des ONG comme Greenpeace ou des choses comme ça. Vous avez Génération Identitaire, avant il y avait eu les Jeunesses Identitaires, vous avez Némésis, vous avez plein de groupes comme ça qui ont été dissous, qui sont menacés de dissolution, alors que finalement ils ne faisaient que des actions pacifiques et totalement légales, bien qu'il y ait eu des poursuites, mais c'est disons que sans Génération Identitaire, certaines thématiques n'auraient jamais été portées sur le devant de la scène médiatique et politique. Et en fait, les membres du Front National, les représentants du Front National, les dirigeants du Front National ont été bien contents finalement de voir que, en fait, ils n'avaient pas besoin de se salir les mains parce que d'autres le faisaient pour eux et ensuite, eux, ont récupéré les fruits politiques. Némésis, c'est un peu pareil sur ce qu'on appelle le féminisme de droite, l'agitprop. Alors, je sais que certaines de leurs actions ont été critiquées. Je sais qu'il y a eu, y compris à droite, des voix dissonantes concernant les actions de Némésis. Mais le fait est qu'elles ont réussi à mettre sur le terrain médiatique et politique et dans la tête des gens aussi certains sujets de société. Et ça encore, qui est-ce qu'ils récupèrent ? C'est la représentation nationale du Rassemblement national. Et donc, c'est là où il ne faudrait peut-être pas non plus que les responsables politiques du Rassemblement national oublient d'où vient leur succès, d'où viennent les thématiques qui portent actuellement. Et encore une fois, je vais faire un parallèle avec ce qu'a fait hier Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a donné une conférence de presse d'1h40 à laquelle il n'avait convié que des médias alternatifs de gauche ou de sensibilité de gauche. Il n'y avait pas la presse classique, il n'y avait pas la presse mainstream, et j'ai envie de vous poser une question, Liselotte. Est-ce que vous avez déjà vu un responsable du Rassemblement national faire une conférence de presse aussi brillante? Parce qu'en plus, la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon hier était brillante. On sait que c'est un grand tribun, on sait qu'il s'exprime parfaitement en français. J'en discutais tout à l'heure encore avec un collègue. Moi, j'estime que Mélenchon est à la politique, ce que Fabrice Luchini est au cinéma en termes de s'exprimer, il faut le reconnaître. Et ben, est-ce que vous avez déjà vu ce type d'intervention profondément médiatisée où on aurait Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou je ne sais qui encore qui convoquerait que des journalistes comme Ligne Droite, Frontière, Braise Info, Paris Vox, tout ce que Nouveau Présent, enfin, ou la presse Omerta, la presse alternative en général? Est-ce que vous l'avez vu? Bon, je pense que vous avez la réponse, et c'est aussi le symbole de quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et c'était vrai que c'était aussi l'objet de, de ma tribune du matin, c'était de dire, bon, bah, il y a d'un côté un camp, la gauche, l'extrême gauche, qui assume d'où elle vient, ce qu'elle est et avec qui elle est aussi, et qui sont ses réseaux. Et il y a d'un autre côté la droite nationale qui, par volonté de se dédiaboliser en permanence, en fait, en vient à n'assumer plus rien du tout, à tout oublier. Et je vous le dis tout de suite, si le Rassemblement national demain arrive au pouvoir avec 51% à l'élection présidentielle et même aux législatives dans la foulée, il y aura quand même la moitié de la population française qui sera déçue, voire plus de la moitié. Il risque d'y avoir des tensions énormes parce que je pense que un extrême entre guillemets qui arrive au pouvoir, ça créera de toute façon une césure. Et en fait, ce qu'aura voulu faire Jordan Bardella ou le Rassemblement national depuis des années n'aura servi à rien parce que vous avez beau vouloir vous dédiaboliser auprès de gens qui vous détestent, vous êtes toujours le diable pour eux.
Oui, oui, puis c'est ce que soulignait Jean-Yves Le Gallou récemment sur ses réseaux sociaux, c'est que par ailleurs, on va pas stratégiquement et même sur le plan philosophique laisser la gauche, ses médias, ses hommes politiques se permettre de décréter qui a le droit de fréquenter le Rassemblement national, qui le Rassemblement national a le droit d'engager comme collaborateur ou non. Quand on voit ce que eux se permettent, c'est quand même une grave erreur politique. Et d'ailleurs, voilà, j'espère que tous les collaborateurs qui auraient pu se joindre de près ou de loin à cet hommage pour Quentin ne seront pas inquiétés. Parce qu'il s'agit aussi de souligner que je pense que l'opinion majoritaire des électeurs du Rassemblement national se sentait légitimement assez proche de ce qui s'est passé avec cette affaire Quentin. Et donc, au moins, voilà, en union de cœur et d'esprit avec tous ces hommages. Donc, je pense que même politiquement, ça n'a pas grand intérêt de vouloir mettre une distance avec tout ça.
D'autant plus, Liselotte, que la plupart des personnes qui étaient là samedi, puisque là, vous parliez de l'hommage à Quentin, la grande majorité des personnes qui étaient là sont des gens qui condamnent la violence politique, en tout cas dans son usage brutal, sauvage, tel qu'elle a pu être employée, y compris d'ailleurs, et je le disais déjà la semaine dernière, parfois par des groupes très à droite, etc. La plupart des gens qui étaient là samedi la condamnent. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de vouloir épurer son propre camp, puisque les gens, naturellement, n'ont pas envie. Et d'ailleurs, c'est normal. Peut-être que quand on est très jeune, on est un peu plus chien fou, un peu plus sensible à certaines radicalités. Mais quand on prend de l'âge, quand on prend de l'expérience, et il y avait beaucoup de gens d'expérience dans le cortège samedi, on ne peut pas accepter de vivre dans une société où la violence politique est permanente. Parce que, comme je le disais la semaine dernière, dans ce cas-là, on va vers la barbarie et on va vers quelque chose qui n'est pas souhaitable ni pour nous, ni pour nos adversaires ou ennemis politiques, et ni encore moins pour nos enfants et pour ceux qui suivront.
Bien sûr. On finit sur ces mots. Merci beaucoup, Yann Valéry, pour votre analyse. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, un article plus complet sur braiseinfo.com. Et donc, je vous dis à très vite, Yann Valéry.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. On continue de traiter l'actualité avec des invités et des angles que vous n'entendrez pas ailleurs. Donc soutenez Radio Courtoisie si vous voulez pouvoir continuer à écouter ces programmes.
Voilà, en deux mots, il faut aller sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci chers auditeurs et merci à ceux qui donnent déjà. Quel sera le programme du jour ?
Restez bien avec nous dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Colin en direct pour Histoire pratique des armoiries en France. Midi, le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine d'Olivier Doutrebente. 17h30, restons courtois avec Richard de Sèze. Aujourd'hui, 19h30, le libre journal de la vie française, dirigé par Laurent Poultier-Duménil. À 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier pour Le Prince de Carignan et Coup de chaleur à Franche-Terre. Enfin, dans la soirée musicale de ce soir à 23h, Claudia nous propose la 7e de Bruckner.
Et demain, on retrouve Olivier Vial et Jean-Paul Garraud. Donc soyez au rendez-vous. À demain, 7h.
Bonne journée à tous.